Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonne journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est le 23 avril aujourd'hui, 23 avril 2026. J'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, au menu, la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière qui a choisi comme sujet, c'est une question en fait, prédire les changements sociaux dramatiques, réalité ou fiction? Telle est la question. Également, la chronique Parasport avec Dominique Tremblay, qui sera notre reporter officiel du défi sportif Altergo, qui prend son envol dès aujourd'hui. Et Dominique sera en onde tous les jours à compter de lundi prochain. Et aujourd'hui, il va s'attarder au marathon de Boston qui s'est déroulé lundi et qui a fait rouler justement quelqu'un en fauteuil. Et c'était une première depuis 1975, on vous en dira plus. En fait, c'est Dominique qui connaît bien le dossier qui sera avec nous pour nous éclairer là-dessus. Et puis, je retrouve avec grand plaisir les chroniqueurs du jeudi. Il s'agit de Monique Kerouac et d'Yvan Deslauriers. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Hélène.
Bonjour, Hélène.
Bonjour. Merci d'être là. Yvan, des suggestions de camp de jour.
Oui, fut une époque de ma vie où j'étais très intéressé par ce sujet-là à ce temps-ci de l'année. Ayant deux garçons, puis se demandant qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres pendant l'été. Alors, j'ai trouvé cet article-là qui a été produit il y a 20 jours maintenant, le 1er avril, 3 semaines. Et que je vous en parle parce que ça m'a fait découvrir des choses pas mal intéressantes, surtout pour notre auditoire qui a autour d'eux des gens qui ont des difficultés soit de vue ou d'écoute ou à se déplacer. Donc, toutes sortes d'idées pour des camps d'été et des camps de jour pour cet été.
Merci beaucoup d'avoir choisi de les partager, ces bonnes idées, avec nos auditeurs et nos auditrices. Et vous, chère Monique, vous allez parler des secrets sur le vieillissement que révèle le microbiome de la personne la plus âgée au monde.
Oui, et oui, Hélène, je pense que 117 ans, c'est un âge honorable, n'est-ce pas?
Oui, certainement honorable.
Et je pense que comme cette personne, on rêve probablement de vivre plus longtemps et très longtemps, mais surtout en santé. Alors c'est une professeure qui se nomme Rachel Woods de l'Université de Nottingham et de Lincoln qui a fait des recherches sur cette dame en fait et qui nous révèle différents éléments qui nous permettraient vraisemblablement de prolonger notre vie et surtout en santé.
On est vraiment intéressés. On sera tout oui, évidemment. Merci, Monique. Et puis, je salue mon complice. Il est derrière la vitre. En régie, quoi.
En aquarium.
Oui. Ça va, Mathieu?
Ben, très bien. Vous-même?
Oui.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or.
y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageant. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et il y a des gens heureux. Des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux. Et d'autres qui brassent de l'or. Et il y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Il y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Il y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Il y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
Christophe Maé et sa chanson « Les gens ».
À la une de la presse plus d'aujourd'hui, du rêve canadien au cauchemar. L'Institut TECAR attire des centaines d'étudiants étrangers chaque année, mais ses pratiques en ont vite accablé plusieurs psychologiquement et financièrement. C'est un reportage de Caroline Touzin, très bien étoffé. L'Institut TECAR, un collège privé montréalais subventionné par l'État, attire des centaines d'étudiants étrangers chaque année, mais ses pratiques en ont vite fait déchanter plusieurs, minés psychologiquement et financièrement par leur parcours. Le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec a ouvert une enquête. C'est vraiment un cafouillis total quand on prend connaissance de cette enquête. On parle d'erreurs administratives, de changements de programme sans avertissement, de professeurs incompétents. Cela crée beaucoup, beaucoup de stress et de détresse. C'est donc le grand titre à la une de la presse d'aujourd'hui. Meilleure nouvelle, c'est Mario Girard, le journaliste, qui nous parle de Raphaël Payaré. Bonne nouvelle, l'OSM et son chef Raphaël Payaré prolongent de 5 ans leur association. Sans surprise, écrit Mario Girard, le mandat de Raphaël Payaré est renouvelé pour les 5 prochaines années à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal. Voilà qui va ravir le public québécois qui a adopté ce chef charismatique dès les premiers instants. À la une du Devoir maintenant. Première visite à Montréal pour Christine Fréchette, qui arbore le chandail des Canadiens. Numéro 26, et on peut lire Fréchette au-dessus du chiffre, du nombre. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a accueilli pour la première fois mercredi la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Les deux dirigeantes récemment arrivées en poste se sont notamment engagées à rétablir les ponts entre la métropole et le gouvernement. Autre titre à la une du Devoir de ce 23 avril, un site fait maison pour trouver des places en garderie. Une maire de Québec a lancé sa propre plateforme dans le but de faciliter l'accès à un service de garde en faisant se rencontrer l'offre et la demande. C'est Mathieu Carbas qui signe l'article. Trouver une place en garderie en moins de 24 heures, bien des parents au Québec en rêvent. C'est pourtant la surprise à laquelle ont eu droit Pauline et Pierrick, arrivés de France au mois de mars avec leur fille de 2 ans. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, le couple a trouvé sa solution de garde sur la plateforme Mam Switch, lancée le mois dernier par une mère faisant face à la même réalité et qui connaît depuis un succès grandissant. Nous avons envoyé une annonce à 4 heures du matin, nous avons reçu une réponse dans la matinée, puis avons effectué une visite de la garderie en après-midi, et en soirée, nous donnions notre accord. Mam Switch nous a vraiment sauvé la mise quand je vois tous les gens qui galèrent pour se trouver une place. Ça a été pour nous un game changer, explique aujourd'hui Pierrick Rispeau. Alors que près de 30 000 enfants attendent encore une place en garderie au Québec, Mam Switch met directement en relation parents, garderies subventionnées et non subventionnées, milieux familiaux et autres haltes garderies, une solution relativement simple de matching mise au service des parents. 10 jours pour sceller la création de la Banque de la Défense au Canada, toujours dans le Devoir. Des pourparlers confidentiels se tiennent à Montréal depuis mardi pour achever la création d'une banque multinationale. Cette semaine a commencé à Montréal une deuxième ronde de négociations qui devrait déboucher sur la création officielle de la Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience. Cette nouvelle institution financière multinationale dont Montréal espère abriter le siège social aura pour objectif de faciliter le financement des PME du secteur de la défense au sein des États membres et des alliés de l'OTAN. La première série de discussions qui a eu lieu pendant 4 jours au mois de mars a permis aux pays partenaires de discuter des chapitres et articles de la charte de la future organisation. Depuis mardi, les délégués de ces mêmes pays sont présents à Montréal pour une nouvelle phase de pourparlers de 10 jours. L'objectif, cette fois, et d'arriver à l'adoption des 10 chapitres de la charte qui définiront notamment la gouvernance et le champ d'action de la banque. Si la liste des pays participants à l'élaboration du projet demeure confidentielle, le Canada est partie prenante, tout comme les pays membres de l'Union européenne ainsi qu'un pays d'Asie, qui pourrait être soit le Japon, soit la Corée du Sud. Les États-Unis suivent de loin le projet et ne sont pas impliqués dans les échanges. Et finalement, la une du Journal de Montréal. Porteront-elles chance aux Canadiens? La mairesse de Montréal et la nouvelle première ministre se sont laissés emporter par la fièvre des séries hier. D'autres politiciens l'ont fait avant elle. C'est bien sympathique, mais une chronique d'Antoine Robitaille qui dit que ça peut avoir l'air bien sympathique et proche du peuple pour un politicien d'enfiler le gilet de son équipe sportive affrontant un grand défi, comme l'ont fait hier la première ministre du Québec, Christine Fréchette, et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferralda. Mais c'est un geste extrêmement risqué. Ça peut porter malchance à l'équipe. Du moins, c'est ce que finissent par croire bien des partisans que les séries éliminatoires rendent paranoïaquement superstitieux. Selon les experts, entre guillemets, il y aurait plusieurs cas documentés. On remonte au mois d'avril 2004. L'ancien premier ministre Jean Charest est au pouvoir depuis un an, mais 66 % des Québécois sont déjà très insatisfaits de son gouvernement quand le Canadien en éliminatoire élimine les Bruins après avoir tiré de l'arrière 3-1. Le premier ministre impopulaire enfile le gilet du CH et l'exhibe dans les couloirs du Parlement. Charest tente de mousser sa popularité, se moque le caricaturiste Baudet dans le journal, au-dessus d'un Jean Charest racoleur avec son gilet, sauf qu'en deuxième ronde, malédiction, Tampa Bay sort la sainte flanelle en 4 matchs. Et on parle aussi d'un exemple en lien avec Mark Carney. Sachez que dans le Rock, Rest of Canada, en octobre dernier, on a commencé à observer un mauvais sort Carney Curse, car le premier ministre fédéral avait visité le centre Rogers et passé du temps dans l'abri des joueurs avant la défaite crève-cœur des Blue Jays en série mondiale de baseball.
Pour 10 piastres, puis y avait du blanc dans la peinture.
dans le temps, une chanson de Sarah Dufour.
Oui, ce qui ne change pas dans le temps, je pense, en tout cas, ce sont les camps de jour qui existent depuis belle lurette et ça se poursuit. Allez-y donc, Yvan.
Mais je pense qu'il y a des choses qui changent dans le type de camps de jour qui sont offerts.
Oui, hein? Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les besoins.
Vraiment, vraiment, oui. Oui, et pour tous les besoins, vous avez tout à fait raison. Alors, ma réflexion commence avec un article de Marie Tison qui a été publié dans la presse le 1er avril, qui s'intitule « Été 2026, camp de jour pour petits aventuriers ». Alors, ça va parler des camps de jour, mais je vais accrocher avec ça des réflexions sur les camps d'été aussi. Donc, c'est un peu difficile à croire, mais très bientôt, il sera possible d'observer une tortue à partir d'un rabasca, d'explorer une forêt urbaine ou de dévaler une pente sur un vélo de montagne. Parce que l'été s'en vient, et avec lui, les camps de jour, et notamment ceux qui accordent une grande place au plein air. En fait, les inscriptions sont ouvertes depuis plusieurs semaines au moment d'écrire ça, donc encore quelques semaines de plus que 3 semaines depuis l'article, pour certains camps, et les places commencent à se faire rares. Mais ça vaut encore la peine d'utiliser le moteur de recherche de l'Association des camps du Québec pour dénicher de belles expériences. Je vous en parle en fin d'article. Plusieurs camps mettent l'accent sur les sciences naturelles, comme celui des Amis de la montagne. C'est Gabriel Beaudoin qui est responsable du camp de jour qui nous parle. Il dit « Nous avons toujours des activités éducatives qui prennent la forme de randonnées sur le Mont-Royal. Alors que les jeunes sont éduqués par nos animateurs au sujet de différents aspects naturels comme les animaux, les plantes ou les champignons. On a aussi des activités comme l'ornithologie et le pistage. En pleine journée, il faut évidemment être chanceux pour voir des mammifères comme un renard, une mouffette ou un raton laveur. Par contre, il est beaucoup plus facile d'observer des oiseaux comme des mésanges ou des pigbois. Le camp existe comme une extension de notre programme qui sert à éduquer la population sur la valeur de la montagne, la valeur de la nature. C'est un peu l'objectif du camp, de créer de meilleurs citoyens, des acteurs de protection de la montagne dans le futur, nous précise toujours M. Beaudoin. Le camp de jour, lui, du parc de la rivière des Mille-Îles, ça c'est à Sainte-Rose à Laval, mais également l'accent sur les sciences naturelles. Il y a Chantal Lemire, qui est la directrice des communications au parc, qui explique que notre programme a évolué avec les années. Il est maintenant plus éducatif, plus lié à notre mission. On apprend à interpréter le milieu naturel, à socialiser, à acquérir des compétences en maniement d'embarcations. Tous les jours, beau temps, mauvais temps, sauf en cas d'orage quand même, les jeunes sortent sur la rivière pour en apprendre davantage sur la faune et la flore. Les enfants un peu plus âgés ont la possibilité de s'inscrire à des camps un peu plus spécialisés, comme le camp pêche, particulièrement populaire. Ils vont pêcher tous les jours. Ils vont apprendre à manier les appâts, à différencier les poissons. Ils vont savoir où ils habitent, comment les pêcher et comment avoir une pêche responsable. Il y a aussi un camp artistique, un camp sportif et un camp scientifique. Les jeunes peuvent aller faire des expériences au laboratoire, côtoyer nos spécimens vivants, énumère toujours Mme Lemire. Ensuite, ils vont sur l'eau pour les observer dans leur milieu naturel. L'idée, c'est d'apprendre dans un contexte différent et de ressentir au contact de la nature un bien-être physique et psychologique. On a des jeunes qui viennent depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. On est fiers de dire qu'on en fait des mini-ambassadeurs de la rivière, des jeunes qui vont être préoccupés par le bien-être de la rivière. Il y a des camps de jour dans toutes les régions du Québec. ils visent les populations locales. Mais dans plusieurs cas, ils sont ouverts aux enfants d'autres régions qui viennent passer des vacances en famille dans le coin. C'est le cas du camp d'Explo Nature au Bergeronne sur la Côte-Nord. Selon Lauriane Brisebois, qui est directrice des opérations éducatives chez Explo Nature, c'est un camp que nous faisons avec la municipalité, mais on y met un peu de saveur nature, axé sur la biologie marine. En plein air, il y a l'aspect sciences naturelles, mais il y a aussi l'aspect sport. Les camps 100% vélo du Centre national de cyclisme de Bromont tombent dans cette catégorie. Pour nos camps destinés aux enfants de 6 à 12 ans, la seule condition est de savoir pédaler sur une distance d'environ 200 mètres, indique Marianne Lacasse, qui est coordonnatrice des programmes sportifs du groupe Jeunesse. Les plus vieux ont accès à des camps plus spécialisés. Adrénaline, qui met l'accent sur le saut, le freestyle et la descente de vélo de montagne. BMX, pour les passionnés de ce type de monture. Routes et pistes, qui explorent davantage les routes et les pistes cyclables, avec une attention particulière sur la sécurité routière. Elle nous dit aussi qu'ils ont des enfants qui font les camps 100% vélo pendant des années et des années. On voulait aller plus loin pour les nourrir et les garder actifs dans le milieu du vélo, pour souvent les voir devenir des entraîneurs même. Alors, l'Association des camps du Québec recense une cinquantaine de camps de jour qui offrent des activités de plein air. Il suffit de faire une petite recherche pour les découvrir. Alors, ça, c'était l'article que j'avais vu dans la presse et je suis allé sur le site de l'Association des camps du Québec. Et ça, j'ai découvert une foule d'informations.
Une foule, hey, ça en fait,
oui,
ça?
Oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Vous pouvez d'abord, on arrive sur une page où on nous demande de trouver un camp. Et là, on sélectionne un ou plusieurs types de camps. Ça peut être des camps de vacances, des camps familiales, des camps de jour, des camps avec besoins particuliers, des classes nature ou un accueil de groupe en location. Et du côté, j'ai pesé sur besoins particuliers parce que ça intéresse particulièrement notre auditoire. Il y a un menu où on peut soit choisir des camps qui sont spécialisés dans l'accueil de la clientèle à besoins particuliers ou des camps qui font de l'intégration des clientèles à besoins particuliers en groupe régulier.
Il semble en avoir beaucoup, hein?
Oui.
202, je vois ça.
Et puis là, j'ai perdu ma page. OK, elle revient. Okay. Et dans les besoins particuliers...
Non, pardon, je me rétracte. C'est 191 camps certifiés. Petite différence.
Oui, mais rendu là, c'est pas si pire.
Non, mais il y en a quand même pas mal.
Et on peut spécifier les besoins particuliers de nos enfants. Donc, ça va de la déficience intellectuelle à la déficience motrice, à la déficience visuelle, jusqu'aux troubles graves du comportement ou le diabète, par exemple. Les hébergements offerts, c'est les tentes, le chalet, dortoir, chambre, dans quelle région, quel âge, etc. Il y a même une section pour les aides, programmes d'aide financière. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et là, moi, j'ai choisi déficience visuelle, par exemple. Il y a 20 camps certifiés qui sont sortis de cette recherche-là. Comme par exemple, j'ai-tu le temps?
Oui.
Le camp AES à Saint-Denis sur le Richelieu, par exemple, c'est en Montérégie. Alors, là, on pèse là-dessus. Nous offrons un camp de jour régulier avec 3 semaines de thématiques à Saint-Denis sur le Richelieu. AES se démarque par une solide formation dispensée aux animateurs et de l'équipement à revendre. Et quand on descend plus loin dans la page, il y a un onglet pour les besoins particuliers. Alors, ça dit, nous offrons un programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers qui désirent intégrer les groupes réguliers. Donc, les camps sont offerts du 29 juin au 21 août pour les enfants de 5 à 11 ans. Et les services pour les besoins particuliers, dans ce cas-là précis, c'est déficience intellectuelle, motrice, auditive, visuelle, troubles du langage, etc. Donc, ils ont l'air vraiment équipés pour offrir beaucoup, beaucoup de services. Donc, il y a un bouton pour découvrir le camp et faire ses propres réservations. Alors, ça, c'est un des exemples de camp. Peut-être que j'en pourrais en faire un autre lors d'une de mes brèves.
Avec plaisir. Mais
ça ouvre des possibilités. Vraiment, ouais. plusieurs sortes de camps avec plusieurs sortes de services. J'ai été vraiment impressionné. Mm-hmm. Alors, c'est ça, je vous reviendrai tantôt avec un autre exemple tiré de ce site. Mais c'est l'idée de trouver soit des camps de jour ou des camps de vacances pour nos enfants, peu importe leurs conditions.
Un site vraiment bien fait, l'Association des camps du Québec. Vous allez à campspluriel.québec.com. On vous retrouve dans la prochaine demi-heure, cher Yvan Deslauriers. Êtes-vous déjà allé dans un camp de vacances, vous?
Oui.
Ouais. Oui. Aimiez-vous ça?
Moi, je suis un peu... J'étais un peu scout dans l'âme, alors oui, j'aimais beaucoup ça.
Ah oui.
Je me souviens d'un camp particulier, c'était 2 semaines. C'était avant d'aller au secondaire.
On s'en reparle.
Oui, c'est vrai. Bye.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, hard to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Take my pride, stay in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. But you wrote the book. I just took a page out to be loved. To be loved and nothing more. And you kept your word. Do you want to matter? The way that someone leaves this world. So just levels down. Seeing it through.
c'était Sienna Spiro, Die on This Hill.
Oui, qu'on a connu grâce à TikTok. Je ne sais pas comment va son microbiome, mais ses cordes vocales, elles sont en forme. Elle n'a que 20 ans. Assez impressionnant. Alors, c'est à vous, chère Monique, les secrets sur le vieillissement que révèle le microbiome de la personne la plus âgée au monde. Vous nous avez dit qu'elle a 117 ans. Est-ce qu'elle est toujours en vie?
Non, elle est décédée, Hélène. Elle est décédée, alors elle se nomme Maria Brania Morera et elle est décédée en 2024 en Espagne. Mais elle a laissé plus que des souvenirs. En fait, elle a fait un don à la science. Ce sont des échantillons de son microbiome intestinal. Alors, des chercheurs ont découvert que sa flore intestinale était aussi diversifiée que celle d'une personne plus jeune de plusieurs décennies. Alors, ce microbiome était riche en bactéries bénéfiques liées à la résilience et à la longévité. Sa consommation quotidienne de yogourt et son régime de type méditerranéen ont peut-être contribué à ce résultat. Si on ne peut pas tous hériter de gènes chanceux, prendre soin de son microbiome peut nous aider à rester en bonne santé tout au long de la vie. Alors, dans un article récemment publié dans Cell Reports Medicine, des scientifiques ont présenté ce qui pourrait être l'étude la plus détaillée jamais réalisée sur une personne super centenaire. Super centenaire, ça veut dire Hélène âgée de 110 ans ou plus. Ce que l'on souhaite tous atteindre, bien sûr. Alors, avant son décès, Madame Brania avait accepté de participer à des recherches visant à comprendre comment elle avait pu vivre aussi longtemps et surtout en bonne santé. En comparant ces échantillons à ceux de personnes n'ayant pas atteint un âge aussi exceptionnel, les scientifiques ont obtenu des résultats peu surprenants sur le plan génétique. Alors, Madame Brania était porteuse de variants protecteurs contre des maladies courantes. Ils se sont également intéressés à un élément sur lequel nous avons davantage de contrôle, le microbiome intestinal. Alors, le microbiome, faut-il le rappeler, est la vaste communauté de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Ils aident à digérer les aliments, produisent des vitamines, influencent notre système immunitaire et communiquent même avec le cerveau. Si nos gènes jouent un rôle mineur dans la formation de notre microbiome, notre alimentation et notre mode de vie, encore une fois, ont en revanche une grande incidence. Avec l'âge, ben, le microbiome intestinal perd normalement de sa diversité, soit la variété des espèces microbiennes et les microbes bénéfiques comme Bifidobacterium. Ben, tout ça, ça diminue. Cette baisse a été associée à la fragilité. Les intestins de Madame Brania ont révélé une toute autre histoire. Son microbiome était aussi diversifié, comme on l'a déjà dit, d'un adulte beaucoup plus jeune et particulièrement riche en bactéries de la famille des Bifidobacteriacées. Comme mentionné donc aussi précédemment, chez la plupart des personnes âgées, ces bactéries diminuent, mais les niveaux observés chez Madame Brania concordaient avec les rapports antérieurs faisant état d'une concentration élevée de bifidobactéries chez d'autres centenaires et supercentenaires. Les chercheurs en ont conclu que ce microbiome exceptionnellement jeune avait peut-être favorisé la santé de ses intestins et de son système immunitaire, contribuant par le fait même à sa longévité hors du commun. Les bifidobactéries sont parmi les premiers microbes à coloniser l'intestin d'un nourrisson et sont généralement considérés comme bénéfiques tout au long de la vie. Des études les associent au renforcement du système immunitaire, à la protection contre les troubles gastro-intestinaux et à la régulation du cholestérol. Le régime alimentaire de Madame Brania a fourni une explication à son taux élevé de bifidobactérium. Elle disait manger, prenez note, 3 yogourts par jour.
Oh, 3?
trois, mais surtout Hélène, chacun contenant des bactéries vivantes, soutenant la croissance des bifidobactéries. Elle suivait également un régime de type méditerranéen qui semble favoriser la diversité du microbiome intestinal et une bonne santé. D'autres aliments, comme le kéfir, le kombucha, et des légumes fermentés, comme le kimchi et la choucroute, permettent le développement de bifidobactérium et contiennent tous des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries vivantes qui se logent dans les intestins et possèdent des effets bénéfiques sur la santé. Cependant, les probiotiques ont besoin de carburant. Et où est-ce qu'on trouve ce carburant? Ben, c'est dans les prébiotiques, soit des fibres que nous ne pouvons pas digérer, mais dont se nourrissent nos microbes, qui se trouvent dans des aliments comme les oignons, l'ail, les poireaux, les asperges, les bananes, l'avoine et les légumineuses. Ensemble, les probiotiques et les prébiotiques contribuent à maintenir un microbiome équilibré. Bien sûr, cette étude portait sur une seule personne et les scientifiques ne prétendent pas que son microbiome explique à lui seul la longue vie de Mme Brania. Sa longévité extraordinaire était très certainement le résultat de nombreux facteurs interdépendants. On pense à des gènes protecteurs, un métabolisme efficace, un faible niveau d'inflammation, mais aussi très probablement le soutien d'un microbiome intestinal diversifié. La recherche sur le microbiome progresse rapidement, mais personne ne sait encore à quoi ressemble un microbiome parfait. Une grande diversité est généralement associée à une meilleure santé, mais il n'existe pas de recette miracle pour vivre longtemps. Néanmoins, l'exemple de Mme Brania vient conforter un consensus croissant. Cultiver un microbiome diversifié et bénéfique est lié à une meilleure santé et à une résilience accrue. Si on ne peut pas choisir ses gènes, on peut en revanche prendre soin de sa flore intestinale. Et pour ça, il suffit d'appliquer quelques conseils simples. Comme on le disait, manger des aliments fermentés, tels que le yogourt vivant. Alors, je fais une petite parenthèse, Hélène. J'ai trois sortes de yogourt à la maison et j'ai vérifié l'étiquette. Ben, j'en avais qu'un qui avait des bactéries actives. Alors, il faut être bien attentif quand on achète nos yogourts.
Lequel, si je peux me permettre?
Je vais me diriger vers ma
votre réfrigérateur.
Je vais vous dire ça de ce pas, parce que j'ai oublié le nom de la marque. Alors, il s'agit de Olympique Biologique.
Olympique Biologique.
Oui, exactement.
Mangez ça, alors, vous pouvez faire les Olympiques. En tout cas, les Olympiques de la vie.
Exactement, on peut faire les Olympiques, mais il faut vérifier ça, parce que donc, si on n'a pas ces cultures bactériennes actives, ben, le yogourt est toujours bon pour notre santé. Mais on n'a peut-être pas les prébiotiques, assez de prébiotiques en tout cas, pour nourrir les microbes sains.
Comme Maria en avait.
Comme Madame Mariana en avait.
Alors, Mariana ou Maria?
Non, pardon, excusez-moi, là, qu'est-ce que j'ai dit?
Mariana.
J'ai dit...
Oui, Mariana Mazza, on lui souhaite de vivre jusqu'à 117 ans, mais c'est Maria Branias Moreira.
Brania Moreira, voilà. Ouais. Alors, je referme la parenthèse.
Et, et la porte du frigo.
Oui, la porte du frigo, oui, c'est bien fait, c'est ma porte de bureau aussi.
Merci, Monique.
Alors, à part le yogourt vivant, là, il y a le kéfir, comme je disais, le kimchi, la choucroute, et des fruits, des légumes et des légumineuses, des céréales complètes qui fournissent les prébiotiques dont les microbes sains ont besoin. Alors, suivre un régime méditerranéen basé sur les légumes et les fruits, les céréales complètes, l'huile d'olive comme principale source de graisse, le poisson et les légumineuses, puis avec une consommation minimale de viande rouge, on le souligne tout le temps, on rappelle aussi au minimal les aliments transformés et des sucres ajoutés, bien sûr, c'est très mauvais pour notre microbiome.
Ouais.
Alors, ça ne garantit pas une longévité supérieure à 110 ans, Hélène, mais elles sont associées à un risque moindre de cancer, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Alors, L'histoire de Madame Maria Brania Moreira devrait nous inspirer. La longévité dépend d'un équilibre délicat entre génétique, mode de vie et biologie. Si on ne peut pas tout contrôler, ben, prendre soin de notre microbiome intestinal, ben, c'est un effort, je pense, bien minable, qui permet de rester en bonne santé, fort probablement assez longtemps.
Absolument. On a du contrôle, c'est relatif, là, c'est limité, mais on en a quand même, alors profitons-en.
Exactement.
Il y a un trou dans ma chambre, j'y vois des yeux immenses. Si je plonge, tête la première, dis-moi si le fond se touche, je pourrais m'y plaire.
C'était court de Fauvel avec Matt Mullen.
Oui, ça sonne pas mal Prince, cette chanson. Merci Mathieu. Et on y va avec les brèves, toujours en compagnie d'Yvan Deslauriers et de Monique Kirouac. Yvan, vous allez continuer de nous parler des camps de vacances.
Oui, alors on va faire sur le champ, d'une façon vive, une sélection. Alors, je suis curieux de savoir s'il y a des camps pour des enfants qui ont une déficience intellectuelle dans la région de Montréal. Là, pendant que je vous donne mes critères, là, je le fais en même temps. Il y a trois camps qui sortent. Il y a le camp de jour multisport mené autrement à Montréal-Nord. Il y a le camp de jour Sablon sur le plateau Mont-Royal. À Montréal, évidemment. Et la Fondation des aveugles du Québec en fait un autre. Tiens, je vais aller voir de ce côté-là pour le fun. En plus de promouvoir une vie autonome et active, bon, merci, pour les personnes vivant avec une déficience visuelle, le travail de la Fondation se retrouve par le soutien qu'elle apporte à sa clientèle dans l'organisation d'activités de loisirs. J'ai souvent fait affaire avec la Fondation lors de l'émission du vendredi, quand il y en avait une. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir les activités de ce camp de jour-là. Et ils offrent des services pour les enfants qui ont des besoins particuliers, soit déficience intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive, déficience visuelle, évidemment, troubles du langage ou de la parole et troubles de santé mentale. Alors, n'hésitez pas, je regarde vite pour le camp du jour, c'est du 25 juin au 9 août et c'est des durées de séjour de un mois et plus pour les enfants de 6 ans à l'âge adulte. Alors, c'est des jeunes qui développent de nouvelles habiletés sociales et s'épanouissent dans un climat de camaraderie et de confiance et de plaisir. C'est cueillette de pommes, trampoline, etc. Donc, beaucoup de belles choses à trouver à cet endroit-là. Donc, vous voyez qu'à partir du site, avec certains critères, on obtient des informations qui sont très, très, très pratico-pratiques, pas loin de chez nous. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil.
CanQuébec.com. Et en deux phrases, on avait commencé à parler de votre propre expérience. Juste avant de commencer le secondaire, vous avez quoi, participé à un camp de jour?
Oui, oui, c'était organisé par le collège où je suis allé au secondaire. Puis c'était deux semaines sous la tente. Alors, pour un citadin comme moi, c'était une belle expérience. Et plusieurs années, plus de 50 ans plus tard, je m'en souviens encore pour une très belle période.
Ah oui. Il y a les chansons aussi dont on se souvient, hein?
Mon Dieu, oui. À toutes les fois qu'il y a un feu de camp, les chansons...
Ah oui. Monique, ben là, je vous prends peut-être de court, mais je pense que vous connaissez bien le dossier, là, le projet de votre chérie qu'on va pouvoir découvrir samedi dans le cadre de Métropolis.
Oui, ben écoutez, ça s'appelle « Le chant de l'eau ». Alors, Francis a fait en fait une série de photos à partir du petit ruisseau qui longe notre terrain. Et il a monté aussi un petit film qui sera diffusé en continu. Il faut dire que les photos, elles ont été exposées à trois endroits à Paris à l'automne 2024. Et on avait accompagné ces photos de poèmes haïku. Alors, les poèmes japonais qui sont de trois vers, qui sont en français, en anglais et en japonais. Et tout ça est accompagné d'une trame sonore conçue par un électroacousticien français qui est devenu un ami et qui a enregistré des sons de ruisseaux particulièrement en Irlande. Alors, tout ça sera présenté samedi de 11h30 à 16h à l'Hôtel 10 dans le cadre du Métropolis Bleu.
Sous la direction artistique d'une certaine Monique Kerouac. Yvan, est-ce que vous aviez préparé d'autres brèves?
Oui, j'ai une autre brève pour vous.
On l'a perdu.
Dans les prochaines
On a manqué un bout de la conversation. Il y a eu comme un silence.
Pardon. OK. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Maintenant?
10-4.
Okay. Donc, c'est une brève que j'espère va revenir régulièrement dans les prochaines semaines. Je suis évidemment le périple de Shauna Burke qui a un cancer de stade 4 et qui a comme objectif de monter l'Everest dans les prochains jours. Et là, présentement, est à son jour 8. J'ai ça sur Instagram. On peut se relier à Dying to Climb, c'est qui désire absolument grimper. Mm-hmm. Donc, on peut suivre son périple jour après jour. Et aujourd'hui, elle disait à aux gens qui la suivent que c'est le jour 8. Et elle a monté... ils font comme des pratiques. Et elle est présentement à 6000 mètres. Elle va redescendre dans la vallée. C'est de façon à acclimater son corps à l'altitude. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent leur situation de maladie de façon bien différente les unes des autres. Donc, jour 8, tout semble très bien aller. Et elle nous montre l'Everest qui est pas très loin. Et c'est vraiment excitant. Elle nous dit qu'elle est excitée. Mais elle est très stoïque, cette personne-là. C'est toujours... puis je l'écoutais, puis je dis, c'est comme ça qu'elle a l'air quand elle est excitée. Alors, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, je vous le recommande et je vais vous en reparler dans les semaines à venir.
Oui, merci, Yvan. Vous l'aviez d'ailleurs interviewé en compagnie de Francine Forgette là, dans votre émission « Au-delà des limites ».
Oui, on peut rattraper ça sur le site de Canal M. Toutes les émissions de Au-delà des limites, dont celle sur Shauna Burke.
Cette femme-là me subjugue complètement. Monique,
oui.
Drôle de question quand même. Est-ce que les humains sont les seuls animaux qui votent? On est des animaux?
Peut-être un petit peux, Hélène.
OK.
Alors, j'ai acquis un nouveau livre. Ça s'appelle Moteur de recherche. Vous connaissez probablement l'émission Moteur de recherche animée par Mathieu Dugal.
Oui.
Eh bien, il a publié différentes questions. Il faut savoir, Hélène, que toutes les questions auxquelles répond Mathieu Dugal et ses collaborateurs et chercheurs qu'il invite pour répondre aux questions sont des questions soumises par le public. Rien n'est proposé par l'équipe elle-même. Alors, et cette émission est en direct tous les soirs à 19h. Alors, oui, ben oui, il y a une étude qui portant sur les chiens sauvages du Botswana qui révèle qu'ils prennent certaines décisions par le vote. Mais c'est un vote très original, Hélène. Ils éternuent. Alors, c'est une démocratie tout à fait originale. Alors, pour savoir si la meute de chiens doit se déplacer, par exemple, on fera d'abord confiance au mâle dominant ou à la femelle dominante qui vote en éternuant. Or, si la femelle ou le mâle dominant ne vote pas, il est possible que la volonté populaire l'emporte. Plus un animal se trouve en bas de la hiérarchie, plus sa proposition devra être approuvée par un nombre important de votes. Non, excusez-moi, d'éternuements. Et les abeilles, elles, vont voter en dansant. Alors, quand une colonie d'abeilles mellifères devient trop grosse, elles se divisent et cherchent un nouveau nid. Alors, il y a des abeilles éclaireuses qui sont envoyées pour explorer les environs. Elles reviennent avec une ou plusieurs propositions de lieux pour le nid. Pourquoi la danse? Ben, parce qu'elle permet de transmettre beaucoup d'informations. Elle sert carrément à donner les coordonnées GPS de la destination privilégiée par l'éclaireur. Alors, progressivement, ces éclaireuses, bon, cessent de danser. Épuisées, elles se rangent à l'idée d'une autre en adoptant sa danse. Et le vote se termine quand toutes les butineuses dansent à l'unisson. N'est-ce pas beau?
Ah oui, c'est de la poésie, l'éternuement ou la danse pour voter. Adoptons cette façon de faire, pourquoi pas? Achoum, ouais, on y va en dansant. Les emojis, ça marche, Monique?
Oui, ben écoutez, ça marche vraiment. C'est ce que nous dit. En tout cas, ça fait vraiment la différence dans le cadre privé. Ajouter un cœur ou un sourire ou tout autre emoji rend les messages plus personnels et plus charmants. Ça leur apporte une profondeur émotionnelle et renforce l'engagement du partenaire. Et c'est ce que nous explique une chercheuse de l'Université d'Austin au Texas. C'est sa première conclusion de l'expérience qu'elle a menée auprès de 260 personnes qui devaient simuler un échange de textos avec un ami proche, dont une moitié enrichie d'émojis et l'autre moitié uniquement composée de textes. Deuxième conclusion, le type d'émoji importe peu, que ce soit un visage ou un objet, un pouce, une étincelle, pas la peine de suranalyser son choix, pourvu, bien sûr, qu'il soit en accord avec la teneur affective du message. Selon les chercheurs, le rôle d'un émoji est surtout de se montrer réceptif envers l'autre, ce qui est la clé pour atteindre sentiment d'intimité et de satisfaction relationnelle.
On vous envoie des cœurs. Et on a encore quelques secondes pour une capsule linguistique.
Ah ben oui, ben écoutez, on aurait probablement souhaité dire une deuxième victoire en autant de matchs pour les Canadiens de Montréal.
Bien sûr, mais ça se dit pas finalement? En autant?
Ben, ça ne se dit pas vraiment, non. Pour utiliser l'expression « en autant de matchs », Hélène, il faut absolument mentionner un nombre au préalable. On aurait pu dire « deux victoires en autant de matchs ». Mais il semblerait que ce n'est pas vraiment une expression courante. La façon la plus correcte et la plus simple de décrire cette réalité, c'est de répéter le nombre et de dire « deux victoires en deux matchs pour l'équipe ». 3 points de suspension. Je ne veux pas dire des Canadiens de Montréal. Parce que...
Ou pour la victoire de Montréal.
Ah, d'accord. Ah oui, pour la victoire de Montréal. Merci.
Pour bien mélanger les choses.
Mais on a le droit de dire « Go Habs Go », par exemple.
Ah, ben oui. Ça, ouais. On a le droit, oui.
Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Yvan. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne dernière fin de semaine du mois d'avril.
Oui, à la semaine prochaine.
À venir, la chronique parasport et la chronique psychologie sociale. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La chronique parasport avec Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va et vous?
Très bien, merci.
Super. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du marathon de Boston.
Oui, c'est le marathon de Boston qui s'est déroulé le 20 avril dernier, donc lundi. C'était la journée des Patriotes aux États-Unis et c'est la grosse journée là, de course à travers le monde. Le marathon de Boston, c'est un peu comme le Grand Prix de Monaco en Formule 1 ou
ah oui.
encore le Tour de France en cyclisme ou le Master au golf. Si vous aimez vraiment là, la course à pied, c'est la mecque des marathons. Il faut aussi réussir un temps pour se qualifier pour ce marathon-là. Là. On peut pas arriver là. Je vais faire 2-3 kilomètres par jour là, puis une semaine avant, puis après ça, je vais m'inscrire au marathon de Boston. Là. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses d'autres courses pour te qualifier. Donc c'est vraiment quelque chose. Et il y avait 24 362 participants en 2026.
Un record?
C'est pas nécessairement un record, mais c'est quand même beaucoup de monde qui ont réussi le standard là,
oui.
dans les différentes catégories. Là. C'est beaucoup, beaucoup de monde.
Et Dominique, le marathon de Boston est aussi très important pour les athlètes en fauteuil roulant.
Oui, en 1975, un Américain qui se nomme Bob Hall a été le premier athlète en fauteuil roulant en franchissant la ligne d'arrivée en 2h58. Les organisateurs lui avaient dit que s'il réussissait à finir le marathon en bas de 3 heures, il réussirait à avoir un certificat mentionnant qu'il avait complété la course. Donc, il a réussi. C'était tout un accomplissement pour lui. 2h58 minutes, c'est très loin du temps que le gagnant de cette année, Marcel Hogg, a fait. Donc, l'athlète de la Suisse, il a remporté en 1h16 minutes et 6 secondes.
Ah oui.
C'est complètement différent. Là. Les fauteuils de course en fauteuil roulant ont complètement changé. On est passé de 4 roues avec une modification un peu des chaises d'hôpital là, qu'on peut voir à des courses, à des fauteuils roulants à 3 roues. Qui sont passés dans des souffleries d'aérodynamique. Alors, c'est tout autre chose. Et Bob Hall a vraiment changé la course en fauteuil roulant en dessinant lui-même des courses. Et plusieurs athlètes ont utilisé au cours des années, des 50 années, qu'il y a de la course en fauteuil roulant, qui ont utilisé ce type de fauteuil roulant là, modifié à 3 roues. Et on parle maintenant de près de 2000 athlètes en fauteuil roulant qui ont participé au marathon de Boston. Bob Hall, malheureusement, est décédé à l'âge de 74 ans le 12 avril dernier. Donc, c'est triste, mais c'est un peu boucler la boucle. Et c'est seulement à 8 jours du marathon de Boston qui l'a rendu célèbre un peu partout à travers le monde. Un autre fait intéressant, le marathon de Boston a 6 catégories pour les personnes avec un handicap. Donc, on parle évidemment des courses en fauteuil roulant. Il y a aussi du vélo à main. Il y a aussi des athlètes qui ont d'autres classifications de para-athlétistes, par exemple des athlètes avec l'appareil cérébral qui court, avec des personnes qui ont une amputation soit au bras ou aux jambes. Il y a aussi des catégories pour des personnes déficientes visuelles ou d'autres handicaps qui n'est pas reconnu par le Comité paralympique international, entre autres. Et il y a aussi des personnes, donc un tandem, une personne qui pousse un fauteuil roulant modifié pour permettre que tout le monde puisse vivre l'expérience des marathons, comme le marathon de Boston.
Et Dominique, la popularité d'un athlète québécois en fauteuil roulant est intimement liée au marathon de Boston.
Oui, tout le monde a entendu parler de André Vigée.
Oui.
C'est l'un des grands noms de la course en fauteuil roulant au Canada, au Québec. Il a remporté le marathon de Boston à 3 reprises, la première fois en 1984, c'était la première fois que les athlètes en fauteuil roulant avaient leur propre catégorie. Il a aussi gagné en 1986 et 1987. Il a aussi remporté 3 médailles d'or aux Jeux paralympiques de 1980, 1984 et 1992. Il a aussi participé à des épreuves de démonstration aux Jeux de Barcelone Il y avait une course en fauteuil roulant de 1500 mètres chez les hommes. Il avait remporté une médaille, là, et c'est vraiment ça qui a fait connaître les courses en fauteuil roulant un peu partout au Canada et à travers le monde. Moi-même, dans mon jeune temps, là, dans les années 80, le marathon de Montréal était diffusé sur les ondes de Radio-Canada, et je me souviendrai toujours qu'André Vigée faisait la... On voyait sa course en fauteuil roulant là avec 3, 4 ou 5 d'autres athlètes, dont des athlètes là, qui sont Mustapha Badji de la France, Francine Dispache, Owens Fraise de la Suisse. Donc, c'est des athlètes que moi-même j'ai rencontrés et que j'ai admirés quand j'étais jeune. Et ça fait drôle là, de voir là, que tous ces athlètes-là sont célèbres grâce au Marathon de Boston et les autres marathons à travers le monde. Et des athlètes comme Chantal Petitclerc ou Dean Bergeron qui ont dominé la course en fauteuil roulant en athlétisme dans la fin des années 90 et début des années 2000, ont connu et suivi les traces d'André Vigée, qui a été un pionnier.
Oui, André Vigée qui est mort jeune quand même. Hein, je regardais ça, là, il avait seulement 54 ans.
C'est ça, il est mort, décédé d'un cancer. C'est des choses qui arrivent.
En 2006. Puis
en 2010.
En 2006.
Pardon. Ouais. Oui, c'est vrai. Il a quand même laissé sa trace là, avec la maison André Vigée, ouais. Qui offre plein d'équipements pour les personnes handicapées, dont évidemment des fauteuils de course. J'ai acheté mes premières roues de course en fauteuil roulant à son magasin, là, dans son bureau, et ainsi de suite. Donc, ça rappelle des beaux souvenirs.
Je comprends. Et ben, c'est pas un beau souvenir, ça commence aujourd'hui. J'imagine qu'il va y avoir des beaux souvenirs aussi liés à la 43e édition du défi sportif Altergo.
Oui,
Dominique,
oui,
ça commence aujourd'hui. Là. Est-ce que vous sentez la fébrilité?
Oui, puis le défi sportif, avec André Vigée, c'est un autre... quelque chose qui fait connaître le sport pour personnes handicapées et qui est important pour le développement du sport paralympique au Québec, Canada et même à travers le monde. Il y a plein de compétitions. Ça commence aujourd'hui là, avec la compétition nationale de boccia. Il va y avoir demain les compétitions scolaires de boccia. Là, il va y avoir 30 athlètes du niveau primaire et secondaire qui vont jouer au boccia à l'Arena Maurice Richard. Plein aussi de compétitions en fin de semaine là, au centre sur le billard, donc toute la semaine prochaine. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous avez eu la chance, vous viendrez faire un tour.
Certainement. Et on va vous écouter sur nos ondes à partir de lundi. Vous ferez des reportages à 10h30 à partir de lundi. Merci Dominique.
Merci. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au
plaisir.
Je carbure, mes gosses sont chop, donc j'évite les censures. L'image change, pas besoin de se réchauffer. Au bout du précipice, moi je suis prêt à me lancer. Le grand de ce monde était jadis un enfant. Ceux qui oublient, c'est qu'ils sont perdus dans le temps. Et c'est bien clair quand tu vis pas le présent. L'équipe adversaire, elle est devant ton miroir. Série éliminatoire, elle commence ce soir. On bosse fort et toujours besoin de renfort. Même à 3-1, on va rien lâcher. Je suis riche, résilient, t'as pas à t'inquiéter. Y'a pas des petites en plate, donc aux bananes pesées. Non, les roues, on lit semblé, on vient de boulet. J'suis pas venu ici simplement pour danser. Mais bel et bien pour une baillon d'âle, souffle. La planète se réchauffe, fais le pas. L'amour se révèle, fais le pas. Elle veut pas toi, fais le pas. Fais le pas, fais le pas. Et on pense pas, lève-toi et fais le pas. Vibe sur le son et fais le pas. Y'a pas d'erreur quand tu fais le pas. Fais le pas, fais le pas. Et on pense pas, lève-toi et fais le pas. Vibe sur le son et fais le pas. Y'a pas d'erreur quand tu fais le pas. Fais le pas, y'a yeah, fais le yeah. Pas. C'est dans mes temps, ma navigue, elle m'a balancé. Sous la mer, elle est l'arche avirée. Avant au fil de monter sous l'île, faut qu'on apprenne à nager. Qui va jamais trop tard, sous moi des mapdos. Mais tête les trois, tu es les paves, les tendées. Flexibilité, son bail au bag à ignorer. Ça se sauce pas, move pas, me voile pour sac pas. Les pompiers au vini, ça y est, ouais, c'est en flamme. T'es venu tuer du fait, mais y'a pas de capable. Les chita là, pour monter y'ont belle femme. Sous chita, waka bicha, waka plein, y'a un bail au pala. La planète se réchauffe, fais le pas. L'amour se révèle, fais le pas. Elle veut pas toi, fais le pas.
Fais le pas, une chanson de Wally.
La chronique de psychologie sociale en compagnie de Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, vous nous présentez une chronique aujourd'hui qui a été préparée par vous en collaboration avec Catherine Parent, Alexis Lapointe, Elisabeth Gagnon, qui sont toutes étudiantes au baccalauréat à l'Université de Montréal. Et puis aujourd'hui, Roxane, vous vous interrogez sur les changements sociaux dramatiques, prédire les changements sociaux dramatiques, réalité ou fiction?
Oui, imaginez, Hélène, deux attentats presque identiques. Il y a le même nombre de victimes, le même mode opératoire. En Nouvelle-Zélande, la vie reprend son cours normalement en une semaine. En Égypte, le même événement met le feu aux poudres et déclenche le printemps arabe. Donc, pourquoi un même événement ne produit-il pas les mêmes effets partout? Pourquoi certaines sociétés absorbent un choc plus facilement alors que d'autres basculent dans le chaos? Donc, c'est exactement ce que je tente de comprendre avec mon équipe à l'aide d'un outil, un algorithme qui est capable de modéliser le changement social.
Expliquez-nous d'abord et avant tout, c'est quoi le changement social?
Oui, bien le changement, tout d'abord, c'est un processus qui est unique. Donc, lorsque quelque chose, quelqu'un ou la société change, il y a une transition d'un état à un autre. Donc, par exemple, une substance peut passer de l'état liquide à l'état solide, tout comme une personne pourrait être un jour très colérique et puis s'adoucir dans le temps. De la même manière, une société peut aussi changer d'état, par exemple en passant de la stabilité au chaos.
Oui, on préférait le contraire, mais bon.
Ouais.
Quels sont les états d'une société possible?
D'abord, il y a la stabilité. Donc, lorsqu'un événement survient, parfois même un événement majeur, grave, mais il survient sans remettre en question les institutions, les normes ou même l'identité collective. Donc, la société, elle encaisse le choc et continue de fonctionner comme avant. Par exemple, lorsqu'un gouvernement est réélu, on peut dire que c'est un événement qui se passe, mais après l'élection, les institutions, puis la vie de tous les jours continue sans rupture majeure. Il y a aussi, à l'opposé, un autre état de société qui est l'inertie collective.
Ah, la torpeur, on dit.
Oui, oui. Dans les récits utopiques, non. Ici, ouais. Il n'y a pas nécessairement de choc brutal, mais plutôt un vide. Donc, les institutions fonctionnent mal, les normes sociales sont floues, les objectifs collectifs disparaissent ou bien sont moins évidents. Les individus savent plus trop quoi vers la société, là, vers quoi elle se dirige. C'est une situation où, malgré les crises ou les promesses de changement, rien ne se transforme réellement. C'est comme si la société se trouvait figée dans l'attente. Donc, ces deux états, la stabilité et l'inertie collective, c'est d'une certaine façon, ça représente un certain statu quo. Puis, entre ces deux états-là, parce qu'ils sont quand même assez opposés, il y a ce que l'on trouve le changement social incrémentiel. Donc, c'est un état où la société, où il y a des petites transformations qui sont lentes, progressives, comme des réformes, des changements de valeurs, des évolutions technologiques. Par exemple, on peut penser à l'apparition de la radio. Au début, il y avait un petit choc, des questionnements, mais finalement, ça s'est intégré, somme toute, bien dans notre fonctionnement social. Donc, la société ici change progressivement. On ne s'en rend pas tellement compte. Quand il y a un déséquilibre, bien, l'équilibre se remet rapidement, somme toute. Finalement, il y a le changement social dramatique. C'est lorsqu'un événement perturbateur est rapide, contrairement à progressif, donc provoque une rupture majeure. Les institutions sont déstabilisées, les normes sociales sont bouleversées, puis on peut se sentir menacé collectivement et personnellement. Donc, dans ces moments-là, les repères s'effondrent, puis la société ne fonctionne plus comme avant. C'est un type de changement qui est quand même assez déstabilisant, mm-hmm. psychologiquement.
On s'en rend compte, là, on le ressent.
Oui, exactement, à tous les niveaux. Puis c'est pour ça qu'on est motivé à le modéliser.
Qu'est-ce qui fait qu'un événement devient ou non un changement social dramatique?
Pour qu'un événement devienne un changement social dramatique, il y a quatre caractéristiques qui doivent être présentes simultanément. Et puis, on peut retourner à la pandémie comme un exemple, mais il y a plusieurs autres exemples aussi. Donc, premièrement, la vitesse de l'événement. En quelques semaines, dans ce cas-là, des sociétés entières se sont arrêtées, les frontières ont fermé, il y a eu des confinements, les hôpitaux débordés. Donc, il y a eu une certaine rapidité du choc qui a dépassé la capacité normale d'adaptation.
Oui, de l'absorber, ce choc-là.
Exactement. Des individus, puis des institutions aussi. Deuxièmement, il y a la rupture des structures sociales. Ça, en gros, ça veut dire que la COVID, par exemple, dans ce cas-ci, a perturbé nos institutions, les gouvernements, système de santé, économie, éducation, travail. Donc, il y a des secteurs entiers qui ont cessé de fonctionner normalement du jour au lendemain. Il y a eu une énorme rupture à ce niveau. Troisièmement, il y a la rupture des normes sociales. En gros, ce sont nos comportements, autrefois peut-être banals, comme se rassembler, se serrer la main, visiter ses proches. Tout ça est devenu interdit ou bien moralement répréhensible si on le faisait. Donc, en gros, ce sont les règles du vivre ensemble qui ont été redéfinies en urgence. Finalement, la quatrième caractéristique, c'est la menace à l'identité culturelle. Donc, en Occident, par exemple, la pandémie a ébranlé certaines de nos valeurs fondamentales comme la liberté individuelle, le contrôle sur sa vie personnelle et même parfois la confiance envers les institutions. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissaient plus la société dans laquelle ils vivaient. Donc, ces quatre éléments ensemble, la vitesse, la rupture des structures sociales et normatives, et puis la menace identitaire, ça a fait en sorte que la COVID a été un véritable changement social dramatique. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, il y a d'autres événements. On peut penser à la guerre en Ukraine, à certaines révolutions passées aussi qui se sont produites à travers le monde. Puis c'est ce type de trajectoire que l'algorithme du changement social cherche à modéliser.
Mais pourquoi un algorithme?
Des fois, je me pose la question aussi. Pourquoi un algorithme? Bien, l'algorithme du changement social, c'est un projet que j'ai co-construit avec Jean-Marc Lina, qui est professeur au département de génie électrique de l'ETS, et Diana Cardenas, qui est professeure en psychologie sociale à l'Université de Montréal, donc ma collègue. Dans les dernières années, on a observé qu'il y a une multitude d'événements bouleversants, donc des crises sanitaires, la guerre Israël-Palestine, des feux de forêt, des révoltes en Iran, par exemple, et bien d'autres endroits.
C'est pas le choix qui manque,
non,
malheureusement.
Non, exactement. Il y a même l'ONU, en 2022, qui a écrit un rapport où il était écrit que les catastrophes naturelles devaient augmenter de 40 % d'ici 2030. Puis il y a plein d'autres statistiques de ce genre-là qu'on retrouve dans les écrits. Donc, il y a des répercussions majeures sur l'ensemble de la société, sur le bien-être collectif et individuel, sur l'économie, la sécurité, puis les ressources qui sont disponibles dans tous ces endroits. Donc, il devient essentiel de trouver des moyens de s'adapter à ces changements de société qui sont inévitable. Donc, pourquoi? Pour limiter les conséquences négatives. C'est ça le but de l'algorithme. Donc, c'est un outil qui permet de mieux comprendre, anticiper, puis se préparer au changement social. Donc, à terme, notre espoir, c'est qu'il pourrait être utilisé par les instances gouvernementales afin d'aider les décideurs à allouer les ressources nécessaires pour faire face aux transformations.
Mais dites-nous, Roxane, comment fonctionne le fameux algorithme?
Je garde ça pour la fin. Donc, l'algorithme, ça repose sur une approche multidisciplinaire. Ça combine des modèles théoriques du changement social provenant de la sociologie et de la psychologie. Donc, et évidemment, des outils mathématiques, parce qu'on veut mathématiser en quelque sorte ces grandes théories. Mm-hmm. Donc, ça permet de modéliser l'état de société.
Modéliser, c'est faire un modèle?
Oui, faire un modèle. Puis c'est vraiment, l'idée, c'est qu'on veut prédire qu'est-ce qui va se passer en fonction d'événements perturbateurs qui peuvent arriver à un moment X. Donc, on se donne l'idée à quel état de société nous sommes en ce moment. Mm-hmm. Et s'il y a un événement qui se produit, un événement perturbateur, donc ça peut être un confinement, si on prend le cas de la pandémie, à un moment donné, bien, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puis on tente avec des équations mathématiques.
Ouais, pas une boule de cristal. Là.
Non, ben non, on essaye, mais on est toujours dans la description pour le moment.
OK, oui.
OK, il faut faire attention parce que...
Oui, avant de se projeter, il faut bien analyser les faits.
Exact. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir, de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est comme si on établissait plusieurs scénarios possibles, puis de voir aussi dans quel pan de la société on peut allouer plus ou moins de ressources, ou dans quel pays, par exemple, il va y avoir des perturbations plus majeures ou non, ou dans quel pays on va basculer vers le changement social dramatique ou non. Fait que ça permet d'être, d'une certaine façon, un outil décisionnel. Mais tu sais, est-ce que vraiment on va réussir à prédire le changement social?
Ouais.
Peut-être, mais il faut faire attention aussi, puis ça va être ma conclusion. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que d'abord, c'est un algorithme qui provient de la théorie. Des théories, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Puis, pour le développer, j'ai fait une recension exhaustive de la documentation en sociologie et psychologie. Donc, plus de 5000 résumés scientifiques ont été considérés, plus de 300 articles ont été lus plusieurs fois en profondeur pour déterminer les caractéristiques du changement social, puis ce qui peut faire en sorte qu'une société va basculer d'un état à un autre. Ensuite, l'autre étape, ça a été vraiment de définir les termes mathématiques de l'algorithme. Puis souvent, je laisse ça à mes collègues spécialistes en mathématiques comme Jean-Marc Lina. Et puis, en gros, c'est un algorithme qui est fondé, c'est un algorithme théorique qui est fondé sur des probabilités, puis qui modélise la manière dont un événement perturbateur entraîne une transition d'un état de société à un autre.
C'est tout?
Ça. C'est tout.
Mais c'est non, tout c'est déjà facile. Beaucoup.
Mais en conclusion, j'aimerais ça qu'on revienne sur un célèbre film. Je ne sais pas si vous l'avez visionné. Retour vers le futur, ça a été très, très
mais
populaire.
Oui, bon, Back to the Future.
Qui n'a pas vu Back to the Future? Donc, l'avenir n'est jamais réellement figé. Il dépend des trajectoires actuelles du système puis des décisions qu'on va prendre aussi. Donc, notre algorithme ne prédit toujours pas l'avenir. Il décrit. C'est comme un tableau de bord. Donc, il n'indique pas ce qui va arriver, mais il montre si le système est stable, fragilisé, ou bien s'il est proche d'un basculement. Donc, alors qu'on cherche toujours à rendre l'algorithme prédictif, ça veut dire, est-ce qu'on peut anticiper réellement le futur, qu'est-ce qui va arriver dans nos sociétés? Mais on peut se poser la question aussi, doit-on réellement se donner la capacité d'anticiper les changements sociaux dramatiques au risque de transformer le futur que l'on tente précisément d'éviter?
Wow, grande question, hein?
Ouais.
Assez troublant, je serais portée à répondre oui, mais si c'est pour le mieux.
C'est ce qu'on espère.
Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière. À la prochaine.
Merci.
Et les bas-fonds qui tombent, volons, valsons, dansons. Quand le monde vacille, sur un pas, sur un fil, à nos corps on mêle, nos mains nouées pour oublier nos peines. Rester droit
malgré tout, puisqu'on ne peut danser que debout. Dansons, inventons nos vertiges avant que l'on se fige, qu'on l'univers hostile, une idylle, une île. Dansons au-dessus des abîmes, aux arêtes des cimes. Tournons puisque le monde ne tourne plus rond.
Clin d'œil à la chanson « Les premiers seront les derniers » ou « Les derniers seront les premiers ». Céline Dion qui chantait « Dansons ». Alors, c'est sur cette belle chanson que je vous souhaite une belle journée et un beau week-end également. Il fera beau jusqu'à au moins la semaine prochaine, je pense lundi inclusivement. Merci Mathieu Tessier à la régie. Ici Hélène Denis qui vous souhaite donc un beau week-end. On va se retrouver mardi prochain et c'est le collègue Denis Martin-Chabot qui sera en votre compagnie. À bientôt!